Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant quelle est notre vocation céleste. Nous arrivons à l'étude numéro 7 et 8 et nous avons deux titres. Premièrement, les deux commencements et deuxièmement, la vocation éternelle. Je dois tout d'abord demander au Seigneur de m'aider. Oui, Seigneur, Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur bien-aimé, sans ton aide, je ne pourrais pas arriver au bout de cette étude. J'ai besoin de toute ton aide. S'il te plaît, que le Saint-Esprit puisse me guider, m'inspirer. Oh oui, je ne sais pas si c'est parce que je suis trop âgé, ou simplement que je me sens pas le courage. Dans ce cas, je te demande pardon, Seigneur. Et merci pour ta compassion et ton amour. Car tu es fidèle en tout. Et je te demande pardon quand je ne le suis pas toujours. Pardon. Merci maintenant de ton aide. Merci. On a dit donc, premièrement, les deux commencements. Deuxièmement, la vocation éternelle. Ce serait grand si nous pouvions passer un peu de temps à considérer la ligne de Dieu dès le commencement jusqu'à Christ. Il y a eu beaucoup de générations qui sont arrivées à un terme et dans un endroit de la Sainte Parole, nous avons un long résumé de ce qui commença et se termina. Un certain point de ce mouvement de Dieu, nous nous trouvons en présence de son commencement pour Israël. Nous passons de ce qui est individuel au point où la nation entre en vue. Jusqu'alors, le mouvement s'était continué par des individus tels que Abel, Hénoc, Noé. Puis, lorsque nous arrivons à Abraham, la nation paraît à l'horizon, c'est-à-dire l'Israël de l'histoire de cette terre. Nous allons voir comment Dieu a commencé avec Israël et comment le principe de ce commencement-là est transféré au nouvel Israël. L'Israël, c'est l'Israël céleste en Christ que nous allons voir ensemble. Il est très impressionnant de réaliser que le commencement du premier Israël se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Remarquons cela, car c'est une chose significative. Le livre des Actes est le lien entre l'Ancien et le Nouvel Israël. C'est le point central de la transition de l'un à l'autre qui se trouve là. Il est intéressant qu'il se trouve dans le discours du martyr Étienne. La première chose que a dit Étienne à l'ancien Israël, c'était « Le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. » Actes chapitre 7, verset 2. Le Dieu de gloire apparut. C'était le premier mouvement fait à l'égard de l'ancien Israël, et c'est là exactement le premier mouvement fait à l'égard du nouvel Israël, et nous trouvons ce commencement dans le Nouveau Testament. Nous passons maintenant à l'évangile de Saint Jean. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et l'a habité parmi nous. Remarquons maintenant, et nous avons contemplé sa gloire. Sa gloire. Saint Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14. Reprenons encore la lettre aux Hébreux. Il est dit que Dieu nous a parlé dans ces derniers temps en son Fils. Le rayonnement de sa gloire. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Donc, le Dieu de gloire apparu et il nous a parlé dans ces derniers temps en son Fils. Le rayonnement de sa gloire. Sa gloire, ce mot, nous n'allons plus l'oublier. Ainsi, premièrement, Dieu est entré dans l'histoire humaine. C'est ce qui arriva pour le premier Israël. Là, bien loin, à Ur, en Chaldée ou Chaldée, une contrée païenne où se trouvaient plus de 2000 faux dieux. Le Dieu de gloire parut et changea le cours de l'histoire. Il fit ainsi le premier pas pour former Israël. Le premier chapitre de Saint Jean nous présente le Dieu de gloire qui se manifeste dans l'histoire humaine d'une nouvelle manière. Tout cela se trouve naturellement dans notre Sainte Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et nous pouvons l'avoir accepté mentalement en le considérant d'une manière objective. Mais nous avons à nous saisir de cela et à nous l'appliquer personnellement, parce que cela nous touche personnellement, vous et moi. Vous et moi, nous sommes appelés par Dieu à être les disciples de Christ dans une vocation céleste, et cela concerne chacun de nous et nous tous. Le commencement même de notre histoire avec Dieu, à nous qui sommes l'Israël céleste maintenant, c'est donc son intervention dans notre vie qui a permis cela. Peut-être cela a-t-il été pour nous aussi inattendu que ce ne le fut pour Abraham à Ur, en Chaldée. Nous vivions notre vie dans ce monde, nous étions mêlés au cours des choses ici-bas et nous étions gouvernés par le Dieu de ce monde. Nous étions tout simplement là, un dans une grande foule, et alors Dieu est intervenu. Et lorsque Dieu entre dans une vie, il n'y a aucun doute à cet égard. C'est un point tournant dans notre histoire, et la nature du changement, c'est que nous n'appartenons plus à ce monde. Nous sommes devenus membres d'un nouvel Israël, d'un peuple céleste dont la nature, comment est-ce qu'il faut dire cela, dont la nature est vraiment spirituelle maintenant. Mais dire que l'Église est le nouveau Israël, comme certains prédicateurs le disent, etc., ça c'est absolument faux. Chers amis, les choses peuvent être autres que nous, pour nous, que pour Abraham. Ça peut être différent pour nous. Mais il est essentiel pour chacun d'entre nous de savoir que Dieu est entré dans notre histoire humaine. Ce n'était pas pour commencer quelque chose fait de notre part, mais c'était accompli par Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative, peut-être d'une manière merveilleuse ou d'une manière très simple. Cela peut appartenir à un moment dans le temps où cela a pu se faire durant des jours, des semaines ou même des mois. Cependant, le fait est que Dieu est entré là où nous étions. Comment Dieu est-il entré? Comment pourrions-nous l'exprimer si nous voulions le dire en paroles? Il est simplement dit ici, au sujet de l'ancien Israël, le Dieu de gloire apparu. Pourrions-nous l'exprimer de cette manière dans notre expérience? Ces paroles que nous avons dans le Nouveau Testament expliquent cela. Dieu est venu en Jésus-Christ et en lui se trouve la gloire de Dieu. Et lorsque nous avons vu Jésus-Christ, nous sommes entrés en contact avec le Dieu de gloire. Selon les paroles de la lettre aux Hébreux, Dieu nous a parlé en son Fils. Tous ceux qui savent que Jésus-Christ est entré dans leur vie savent réellement que Dieu est entré en eux par le Saint-Esprit. Je sais que la sœur May et son mari le savent parce qu'ils l'ont expérimenté, et beaucoup d'autres. Ainsi, l'apôtre Jean, après avoir dit que la Sainte Parole a été faite chair et a habité parmi nous, il dit « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire telle que celle du Fils unique qui est venu d'auprès du Père, qui est venu par le Père. » Et qu'est-ce que la gloire? Eh bien, l'apôtre Jean continue et il dit « La gloire, c'est pleine de grâce et de vérité. » Nous voyons que dans le Nouveau Testament, la grâce et la gloire sont toujours unies. Si nous voulons savoir ce que est la gloire de Dieu, oui, elle est la grâce de Dieu. Et si nous voulons savoir ce que est la grâce de Dieu, eh bien, elle réside dans la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu que d'être rempli de grâce. Et lorsque nous connaissons sa grâce, c'est-à-dire la grâce de Dieu, oui, eh bien, nous connaissons sa gloire. La gloire de Dieu se manifestera toujours dans la ligne de la grâce. Et c'est ainsi à cause de la grâce que nous pourrons dire « Nous avons contemplé sa gloire ». Peut-être savons-nous que ce mot de gloire est l'un des mots les plus grands dans l'évangile de Saint Jean. Si nous ne l'avons jamais fait, je vous conseille de relire l'évangile de Saint Jean et de souligner ce mot. Je dois vous dire humblement et parfois on doit dire la vérité même si cela ne nous plaît pas toujours. J'étais tellement peu éclairé dans l'intelligence que j'ai dû lire l'évangile de Saint Jean 3 fois avant de comprendre que j'étais d'abord perdu puis que j'avais besoin du salut. Or, mon épouse, beaucoup plus intelligente que moi, elle a dû le lire qu'une seule fois pour avoir absolument tout compris. Malheureusement, il y a 25 ans maintenant, elle est morte par erreur et négligence médicale. J'ai presque pété les plombs, mais passons. Maintenant, chers amis, les quelques pensées qui suivent sont pour les jeunes chrétiens qui n'ont pas encore étudié beaucoup leur Bible. Je n'avais pas pensé dire ceci, mais peut-être sera-ce utile. Il va sans dire que je ne prétends pas connaître beaucoup la Bible. En vérité, comme vous le savez déjà, avec 4 ans d'école primaire, enfin, c'est une longue histoire très triste, et si Dieu n'était pas intervenu dans ma vie, eh bien, je donne un exemple simplement de ma façon de dire les choses, parfois un peu bizarre. J'aurais été à Sing Sing ou à Alcatraz. C'est juste pour dire que j'aurais mal tourné. Oui, donc je vous dis encore une fois, ma Sainte Bible, je la connais très peu, par moi-même. Mais je vous dirai comment j'ai commencé à l'étudier. Eh bien oui, j'ai commencé, et je le redis, par l'évangile de Saint Jean. Et j'ai souligné d'une certaine couleur le même mot à mesure que je le rencontrais dans l'évangile. J'ai naturellement toujours employé du vert pour souligner le mot de vie. Nous le voyons tout autour de nous, le vert parle de vie. Et lorsque je rencontrais le mot gloire, j'employais du bleu, c'est la couleur du ciel. J'ai mis du rouge lorsque il était parlé du sang ou de la croix de Jésus. Et j'ai continué ainsi. J'ai donc eu un résultat merveilleux dans l'évangile de Saint Jean lorsque j'ai enfin terminé. Et comme vous le savez, malheureusement, vu mon intelligence très limitée, j'ai dû le lire 3 fois, ce qui n'était pas le cas pour ma sainte épouse qui, elle, a dû le lire qu'une fois pour tout comprendre. Alléluia pour cette femme sainte qui est maintenant vers le Seigneur. Oui. Enfin, vu mon grand âge, je vais bientôt la rejoindre. Ça va aller très vite. Enfin, faisons encore tout ce que le Seigneur nous demande. Travaillons pendant que on peut. Ce n'est là donc une suggestion. Nous disons, chers amis, que le mot gloire est l'un des grands mots de l'évangile de Saint Jean, et toutes les références qui sont faites dans son évangile sont à la gloire de Christ et sont liées à sa personne surnaturelle et à sa puissance surnaturel. Car lorsque Saint Jean, l'apôtre Jean, a écrit « Nous avons contemplé sa gloire », eh bien c'était très longtemps après la venue et après le départ du Seigneur Jésus. Tous les autres apôtres étaient sans doute déjà auprès du Seigneur lorsque l'apôtre Jean a écrit cela. Il revoyait donc toute cette histoire et il exprimait ses impressions en paroles et tandis qu'il pensait au Seigneur Jésus, à sa vie, à son œuvre, à son enseignement et à tout ce qu'il avait vu de lui, il résume tout par ces mots: « Nous avons contemplé sa gloire. » Alléluia. Comment l'apôtre Jean a-t-il contemplé la gloire du Seigneur Jésus? Il l'a fait à bien des reprises et par une série de situations humainement impossibles. C'est donc là une autre ligne d'étude pour nous. Prenons l'évangile de Jean et notons combien de situations impossibles nous pouvons y rencontrer. L'évangile est simplement rempli de situations impossibles. Il y a les noces de Cana, où le vin a manqué, et cela au point de vue humain, c'est une situation impossible. Ensuite, il y a le fameux Nicodème, que j'aime beaucoup, et que ce que nous l'entendons dire, notre cher Nicodème, il dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux, tel que moi maintenant? Saint Jean chapitre 3 verset 4. Et à nouveau, une autre situation impossible. Prenons et pensons à la femme de Samarie. Elle avait tout essayé pour trouver la satisfaction. Une situation impossible. Et nous pouvons continuer ainsi jusqu'à la fin. Dans toutes ces situations, Jésus est intervenu et a changé l'impossible en réalité. C'est ce qui est dit à la fin du récit des noces de Cana. C'est ainsi que Jésus a fait tout cela à Cana, en Galilée, le premier de ses miracles, et qu'il manifesta sa gloire. Johannes, Saint Jean, chapitre 2, verset 11. Ce fut donc le principe qui gouverna toute chose. Ce n'est pas toujours exprimé par ces mêmes termes, mais si nous retournions avec cette femme de Samarie dans sa ville et que nous l'entendions crier à tout le peuple: venez, oh, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Saint Jean, chapitre 4, verset 29. Nous en concluons qu'elle a vraiment compris et contemplé toute sa gloire. Nous pouvons ainsi aller jusqu'à Lazare. Jésus dit: cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Saint Jean chapitre 11 verset 4. Et dans la difficulté que rencontrent les sœurs, alors qu'elles ne peuvent pas accepter le fait que leur problème allait être aussitôt résolu, elles dirent: oh, je sais, nous savons qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Saint Jean 11, verset 40. Jésus a répondu: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Saint Jean, chapitre 11, verset 40. Nous le voyons, la gloire de Dieu en Jésus-Christ, elle est liée au fait que Dieu peut accomplir ce que nul autre ne saurait faire. C'était la personne et la puissance surnaturelle du Fils de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi nous rencontrons parfois une telle difficulté à arriver à la victoire. Peut-être avons-nous été souvent troublés à cause de la difficulté que ont les âmes à venir au Seigneur. Il semble presque que le Seigneur ne veuille pas les sauver. Oh, il y a des durs à cuire. J'en sais quelque chose. Elle traverse des moments difficiles, quelquefois durant des jours, des semaines, voire des années, et elles discutent sans cesse, apportant ainsi leurs problèmes, mais rien ne semble se faire. Ensuite, enfin, quelque chose arrive et elles sont dans la victoire. Pourquoi cela ? Eh bien, Dieu dit avec beaucoup de force, « Cela sera de moi et non pas de toi-même. » Chers amis, aucun homme ni aucune femme ne pourront se sauver par eux-mêmes. Oh, j'ai compris cela. Malgré toute la bonne volonté des nôtres, des autres, pour les aider. On peut des fois tout faire ce qu'on est humainement possible de faire, mais on n'y arrive pas. Le salut d'une âme, cela est une chose possible uniquement à Dieu. Et Dieu veille à ce qu'il s'accomplisse sur une base surnaturelle. Il n'intervient pas très souvent avant que nous soyons arrivés au point du désespoir. Mais là, il intervient. Je crois que ça vaudrait la peine de vous redire ce passage, mais vous pouvez aussi le réécouter. Aucun homme, ni aucune femme, ne pourront se sauver par eux-mêmes, c'est clair. Malgré toute la bonne volonté des autres pour les aider, eh bien le salut d'une âme est une chose possible uniquement à Dieu. Et il veille Dieu à ce qu'il s'accomplisse sur une base surnaturelle. Alors il intervient très souvent avant que nous soyons arrivés au point du désespoir. Mais là, il intervient. Est-ce qui est vrai à l'égard du salut est souvent vrai aussi dans notre histoire spirituelle? Nous nous trouvons toujours à nouveau à un point où la situation est impossible en ce qui concerne l'homme. Nous nous voyons incapables de résoudre le problème par nous-mêmes ou de changer la situation. Nous arrivons de plus en plus au désespoir et finalement au point où nous disons « Oui, seul le Seigneur peut le faire ». Et c'est exactement ce que le Seigneur cherchait lorsque le Dieu de gloire est apparu. Il apparaît comme étant le Dieu de gloire. Voyons-nous là le point? Oui, oui, nous avons dit que le mot gloire dans l'évangile de Jean est lié à la puissance surnaturelle de qui? De Jésus-Christ. Et nous ne pouvons apprendre que qui est vraiment Jésus que en rencontrant, chers amis, des situations dans lesquelles lui seul peut nous aider. Que croyez-vous qu'à mon grand âge, ma voix, qui était totalement inaudible après deux fois avoir été aux soins intensifs pour pneumonie infectieuse, à mon grand âge, eh bien le Seigneur permet que je puisse parler maintenant clairement, et ça c'est surnaturel. Dans mon cas, c'est surnaturel. C'est ça le commencement de la gloire de Dieu. Remarquons la chose suivante. La gloire de Dieu pour Abraham a atteint son point suprême en son fils. Il y a eu, oh là là, beaucoup de situations dans la vie d'Abraham où le Dieu de gloire a dû intervenir. Et nous lisons que, à des reprises diverses, l'Éternel est apparu à Abraham. Cependant, le point culminant de toutes les apparitions de Dieu à Abraham, elle fut liée à Isaac, c'est-à-dire il fut lié à cette question du fils. L'alliance de Dieu avec Abraham devait être réalisée dans cette ligne du fils et tous les desseins de Dieu en lui étaient liés à Isaac. Naturellement, au début, Isaac était une impossibilité, mais à la fin, il est devenu une impossibilité encore beaucoup plus grande. Dieu a dit, « Prends ton fils, ton unique, oui, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. » Oh là là, c'est affreux. Genèse chapitre 22, verset 2. Toute la promesse et l'alliance étaient renfermées en Isaac, qui devait être égorgé avec un couteau. C'est une situation impossible. Isaac doit donc mourir. Il n'y a aucune possibilité d'avoir un autre Isaac. En vérité, l'on peut douter que Abraham ait vraiment désiré en avoir un autre. C'était pour lui une question de vie ou de mort, et une situation tout à fait impossible si Isaac était mort sur l'autel. Mais nous savons ce qui est arrivé. Ceux qui lisent un peu leur Bible le savent, et nous savons ce que nous dit de tout cela le Nouveau Testament. Estimant que Dieu pouvait le ressusciter, même entre les morts, Hébreux 11, verset 19, alors, quelqu'un d'autre que Dieu, a-t-il jamais ressuscité un homme d'entre les morts? L'homme peut avoir beaucoup de moyens, surtout de nos jours, où les techniques avancent chaque jour d'une façon phénoménale pour prolonger la vie, et il pense arriver au moment où il ressuscitera les morts. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Soyez tranquilles. Et il va se passer des choses assez désagréables avant. Et nous verrons si Dieu abandonnera sa prérogative unique, qui est, c'est-à-dire, de ramener dans un corps mort l'esprit qu'il avait quitté. Ça, c'est l'acte de Dieu. Et ça, c'est une résurrection et non pas un simple retour à la vie. Nous avons dit que la gloire de Dieu arriva à son point suprême pour Abraham dans cette ligne du Fils. Nous devrons considérer cela de plus près chez Lazare. Mais revenons à notre commencement. Nous prenons encore l'apôtre Jean et nous avons vu sa gloire. Comment voyons-nous sa gloire? Eh bien, il est dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 12, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Saint Jean, chapitre 1, verset 12. Nous sommes donc enfants de Dieu par son intervention et par un acte direct de sa part. Nous sommes nés d'en haut et nous sommes devenus enfants de Dieu. La gloire de Dieu est révélée en Jésus-Christ dans cet état de fils. Nous glorifions-nous dans ce fait que nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau? De même, l'apôtre Jean, après de longues années, a écrit ces paroles, le cœur très pénétré. Mes bien-aimés, nous sommes dès à présent enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables. Alléluia. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Et, en accord avec ces paroles, l'apôtre Jean a dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. C'est une chose merveilleuse que d'être un enfant de Dieu. L'apôtre Jean l'a dit, et il savait de quoi il parlait. La gloire donc, elle se révèle dans le Fils que nous sommes. Et j'ajoute les filles, parce que vous avez compris, vous êtes compris automatiquement, mes chères sœurs, là-dedans. Vous êtes les sœurs merveilleuses qui ont accepté Jésus. Et c'est à ce point-là qu'Israël entre en vue. La postérité d'Abraham par Isaac, ça c'est la nation qui entre en vue. Et comme nous l'avons vu, Dieu dit à Pharaon, il a dit, « Laisse aller mon fils. » Chers amis, réfléchissons. Ce mot de « fils » était un mot très vaste qui signifiait « toute la nation ». Dieu voyait cette nation comme un fils et il ne voulait en abandonner aucun fragment. Pharaon a répondu que les hommes partent, qu'ils laissent les femmes et les enfants et les troupeaux et les brebis. Mais Moïse a déclaré, non, 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 nos troupeaux viendront aussi avec nous, il n'en restera pas un ongle. Dieu avait dit, mon fils, et cela signifiait toute la nation. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons deuxièmement la vocation éternelle. Permets Seigneur que ma voix arrive au bout. Chers amis, avant de continuer notre thème principal, il y a deux choses que j'aimerais dire entre parenthèses. J'aimerais corriger premièrement une conception erronée qui serait possible. L'Israël céleste et spirituel, vu ainsi, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une pensée de Dieu qui lui serait venue tout à coup plus tard. Elle ne fut pas introduite parce qu'Israël avait failli. Soyons bien au clair à cet égard-là. Il y a des théologiens qui enseignent cela. Ils disent que Dieu l'avait offerte à Israël, qui l'a refusée. Il dit alors avoir recours à quelque chose, et il eut ainsi l'idée d'une église. Ce serait une pensée venue plus tard. Ce serait un mouvement de Dieu causé par une situation imprévue. C'est là une conception entièrement en désaccord avec tout ce que nous dit la Sainte Bible. Et c'est ce que nous cherchons à montrer dans ces méditations. Nous avons dit que tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, y compris Israël, avait en vue Christ et son Église. Tout dirigeait à Christ et à l'Église qui renferment en eux-mêmes toutes les pensées divines du passé. L'Église, c'est donc la pensée éternelle. Elle était dans le cœur de Dieu avant que le temps existât, et elle a été choisie en Christ avant même la fondation du monde. Oui, oui. Donc, l'Église n'est pas une pensée de Dieu conçue beaucoup plus tard. C'est une pensée d'avant le temps. Le Fils de Dieu n'est pas une pensée suscitée par un besoin. Il peut être venu en un temps de besoin immense, mais il était en vue pour cette œuvre particulière, cela de toute éternité. L'Église a été éternellement choisie par Dieu afin d'être le corps de Christ. J'aimerais maintenant que nous gardions tout cela dans notre esprit pour tout ce qui sera dit ici. Nous croyons que si Adam n'avait pas désobéi par l'incrédulité, eh bien il aurait été rendu conforme au Fils de Dieu, mais son péché a montré qu'il négligeait l'intention divine. De la même manière, Israël serait entré dans l'expression corporative de Christ, mais par son incrédulité et par sa désobéissance, Israël a perdu cet héritage. L'autre chose que j'aimerais souligner est celle-ci. L'Église est essentiellement une entité spirituelle. Voyons cela de plus près. Je répète, l'Église est essentiellement une entité spirituelle, aussi véritablement que Christ ici et maintenant est une entité spirituelle. Et Christ est ici, dans ce monde, par l'Esprit Saint. Et cela aussi réellement que Christ est ici, non plus dans une présence physique et sur une base temporelle, nous ne pouvons le connaître et être en communion avec lui que spirituellement. Il en est ainsi de l'Église, le corps de Christ. Il doit donc y avoir une révolution dans la pensée de beaucoup de chrétiens à cet égard. Le mot « Église » est pris et attribué presque à toutes sortes de choses. Pardonnez-moi, je ne désire offenser personne. Oh non, je ne suis pas du genre à offenser qui que ce soit. Mais nous sommes occupés de questions très vitales. Nous entendons parfois parler de cette église-ci et de cette église-là. Une personne m'a dit dernièrement, vous savez, c'est que dans notre église à nous, qui est une communauté nazaréenne, où vraiment il y a toute la vérité, nous sommes vraiment gâtés. Nous sommes la seule communauté chrétienne vraiment complète. Alléluia pour eux. Mais j'en suis pas très sûr. Enfin, il y a, je ne veux pas tous les épeler, il y en a trop. Il y en a plus de 130. L'Église luthérienne, l'Église méthodiste, l'Église baptiste, l'Église anglicane et de combien d'autres encore. Et nous parlons d'elles toutes comme de l'Église. Au point de vue des cieux, c'est un non-sens. Car au point de vue des cieux, ce n'est pas cela l'Église. Car chacune d'elles peut représenter l'un ou l'autre des aspects de la vérité, mais aucune d'entre elles ne possède toute la vérité. Les uns vous diront, vous êtes sauvés, c'est tout. Vous faites partie de la troisième classe, comme dans les chemins de fer autrefois, quand j'étais un jeune homme. Elle est bonne celle-là. Eh bien, non, ce n'est pas comme ça. Alors, une autre personne m'a dit, vous savez, chez nous, on a les prophéties. Alors, nous sommes beaucoup plus complets, car ceux qui sont juste sauvés entreront peut-être au ciel, peut-être, a dit la personne, peut-être. C'était pas très gentil, mais enfin, voilà. Non. Voyez-vous, toute la vérité se trouve uniquement en Jésus seul. L'Église est donc une entité spirituelle. Ça n'a rien à faire avec un bâtiment, une cathédrale, des monseigneurs et des cardinaux, et j'en passe. L'on ne saurait regarder une chose matérielle ou un peuple dans la chair en disant « ça, c'est l'Église, c'est la seule, la vraie ». Nous ne sommes dans l'Église que dans la mesure de ce que est Christ en nous. C'est Christ en nous qui est l'Église. Nous le voyons, l'Église est une unité en Jésus-Christ. Le Seigneur n'a jamais vu séparément tous les pains qui sont dans le monde. Lorsque ses enfants sont réunis autour de sa table, il a dit, je suppose que au jour du Seigneur, il y a des milliers de pains qui sont rompus. C'est vrai. Et je ne sais pas combien il y a de coupes. Certainement des dizaines de milliers. Mais le ciel ne voit jamais plus d'un seul pain, et il ne voit jamais plus qu'une seule coupe. Le pain, c'est Jésus-Christ. Et la coupe, c'est encore une fois Jésus-Christ. Et en y prenant part, nous sommes ainsi unis en Jésus-Christ. Ce n'est pas tout à fait certain que les traducteurs aient été absolument corrects, bien qu'ils puissent y avoir une pensée juste en cela, lorsqu'ils ont rendu les paroles du Seigneur Jésus au moment du repas, là il est dit dans les anciennes versions, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Dans ma version allemande, eh bien c'est un peu différent, il peut y avoir une vérité très réelle dans l'emploi de ce mot « rompu ». Mais en vérité, le corps du Seigneur a été rompu, mais les traductions devraient dire, et j'en ai, ceci est mon corps qui est pour vous. Ceci est mon corps qui est pour vous, qui est pour toi. 1 Corinthiens 11, verset 24. Peut-être cette dernière traduction pourrait éviter une idée fausse, car ce mot rompu a été si souvent regardé comme signifiant, par exemple, voici un morceau, en voici un autre, et en voilà encore un autre, des morceaux dispersés dans tout le monde. Christ n'est pas divisé. L'apôtre Paul a dit, Christ est-il divisé? 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 13. Non, non, non. Christ n'est pas divisé. Il peut y avoir un millier de pains terrestres, mais le pain céleste est un, et c'est ainsi que le ciel voit l'Église. L'Église est une chose brisée sur la terre. Elle est brisée en beaucoup de morceaux ici-bas, mais elle est vue dans le ciel comme étant une. et plus tôt nous le verrons, vous et moi, plus tôt nous allons comprendre cela au point de vue des cieux, le mieux ce sera. Si cet homme ou cette femme sont en Christ, que vous apercevez là-bas, au loin, peu importe si lui ou elle, ils sont dans notre dénomination spécifique ou non, s'ils sont dans notre secte ou non, s'ils sont en Christ, eh bien, ils sont avec tous les autres en Jésus-Christ. Voyez-vous ? Comprenons que l'Église est une entité spirituelle et non pas une chose terrestre et temporelle. Et c'est là, pour nous, une chose très importante à reconnaître. Elle se compose de tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Alléluia. Nous avons donc passé beaucoup de temps avant d'arriver à notre point particulier. Nous faisons ceci. D'un côté, nous retraçons les voies de Dieu à l'égard de l'ancien Israël, et de l'autre côté, nous voyons qu'il reprend les lois spirituelles de cet ancien Israël pour les perpétuer dans le nouvel Israël. Ce qu'il a fait d'une manière temporelle pour le premier Israël, il le fait maintenant d'une manière spirituelle pour le nouvel Israël. Israël. Notre dernier mot a été que en Abraham, la gloire de Dieu arriva à son point suprême dans le Fils. L'état de Fils dans la mort et la résurrection est représenté par Isaac. L'état de Fils est le point suprême de la gloire de Dieu. Nous revenons maintenant dans la lettre aux Hébreux. Quel est le point suprême de cette lettre et de tous les mouvements de Dieu que nous y trouvons? Il se trouve dans un seul fragment. Amener beaucoup de fils à la gloire, selon Hébreux chapitre 2 verset 10. Et c'est là le point suprême de la gloire de Dieu. C'est merveilleux. De même que d'une manière temporelle, il en fut ainsi pour Abraham, il en est ainsi d'une manière spirituelle pour le nouvel Israël. Mais l'idée du Fils n'a pas commencé avec Abraham et Isaac. Elle n'a fait que se réaliser en eux. Elle existait toute en arrière, bien avant eux. Elle était le secret chéri de Dieu avant même les temps éternels. Ce secret a été perdu dans la postérité d'Abraham selon la chair, mais il est repris dans la postérité d'Abraham selon l'Esprit Saint. Nous savons probablement que les lettres aux Romains et aux Galates explique précisément ce fait-là. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 9e, 10e et 11e, qui ne font réellement qu'une seule section, c'est exactement ce que déclare l'apôtre. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ou ne sont pas forcément Israël, selon une version allemande. Romains, chapitre 9, verset 6. Donc, tous les enfants naturels d'Abraham ne sont pas forcément Israël. Israël ne comprend que les enfants spirituels d'Abraham. Lorsque nous passons dans la lettre aux Galates, ce fait est expliqué très, très soigneusement. Et l'apôtre Paul le résume en cette seule question. Il parle de la promesse faite à Abraham. où il est dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». Genèse chapitre 22, verset 18. C'est la question qui causa beaucoup de difficultés à l'apôtre Paul. Il écrit « Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à la postérité, c'est-à-dire à Jésus-Christ. » Galates chapitre 3, verset 16. Ce n'est pas aux nombreux enfants naturels de Abraham, mais c'est aux enfants spirituels, c'est-à-dire Christ et les disciples de Christ. Esaïe s'est écrié, il verra une postérité. Il verra du fruit du travail de son âme. Esaïe, chapitre 53, versets 10 et 11. Et cette Jérusalem est la postérité spirituelle d'Abraham qui est Christ et ses enfants nés de nouveau. Alléluia. La lettre aux Galates nous enseigne que les autres ont disparu. Les autres enfants d'Abraham, eux-mêmes, sont maintenant mis de côté. Et Dieu ne reconnaît plus que ses enfants spirituels. Cette pensée est reprise dans la phrase qui a gouverné toute notre méditation. Et c'est pourquoi, frères saints, compagnons d'une vocation céleste, nous sommes devenus compagnons ou disciples de Christ si nous tenons ferme jusqu'à la fin notre assurance première. Hébreux chapitre 3, versets 1 et 14. L'Israël spirituel et céleste est donc appelé compagnon d'une vocation céleste. Et nous, nous arrêterons sur cette vocation céleste durant quelques instants. Quelle avait été dans ce monde l'intention de Dieu concernant le premier Israël? C'était qu'il apporte la lumière et la vie aux nations. C'était sa vocation divine que les nations reçoivent la vie par sa lumière, qu'il soit le canal de la vie et de la lumière divine pour les nations de ce monde. Nous pourrions citer bien des passages de l'Ancien Testament pour montrer tout cela, mais nous ne prendrons qu'une seule illustration. Nous remarquons que tous les fils d'Israël étaient alors concentrés sur un seul fils. Naturellement, lorsque nous parlons d'Israël maintenant, nous pensons à Jacob. Ce fils, c'était Joseph. Si vous avez Internet, vous pouvez écouter toute la série concernant la Genèse. Et croyez-moi, vous allez avoir des larmes aux yeux quand vous arriverez à l'histoire de Joseph. C'était mon cas. J'ai pleuré. Sans lui, sans Joseph, toute la nation aurait péri, et non seulement les fils et les familles de Jacob, mais toute l'Égypte aussi. En un sens, on peut dire que tous auraient péri. Les voies étranges et souveraines de Dieu à l'égard de Joseph l'ont amené par la mort et par la résurrection au trône, carrément. Ensuite, ses frères sont descendus en Égypte et il s'est fait connaître à eux. Ils se courbèrent devant lui dans une honte profonde, s'humiliant et cherchant à s'excuser. Ils étaient de pauvres hommes, malheureux et misérables. Mais que nous dit et que leur a dit Joseph? Ah, c'est beau cela. Ne vous affligez pas et n'ayez pas de regret de ce que vous m'avez vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse chapitre 45, verset 5. La vie et la lumière ont été données non seulement à toutes les familles de Jacob, mais à l'Égypte tout entière, au monde tout entier, par Joseph. Il était le représentant de tous ses frères. Dieu avait donc fait cela, il a fait cela de lui. Et il présente cette vérité que Dieu avait voulu pour tout l'ancien Israël, qu'il soit un ministre de vie et de lumière pour le monde tout entier. C'était ça la vocation d'Israël et ce qu'il devait être dans l'ancienne dispensation. Les Israélites étaient ici-bas dans la volonté de Dieu, juste au cœur des nations, et cela dans une position d'ascendance, afin d'apporter la vie et la lumière aux nations. La postérité d'Abraham était destinée à ce ministère-là, mais elle fut infidèle à Dieu, et au lieu d'accomplir sa vocation, elle l'a contredit. Nous ne nous arrêterons pas sur l'infidélité du peuple, ça c'est une histoire sombre et terrible. Mais Dieu n'a pas encore terminé sa pensée pour un Israël. Il a encore en vue un prince avec Dieu, car c'est la signification de ce nom Israël. Cet Israël spirituel, qui est céleste, auquel vous et moi, nous appartenons maintenant, et appelés à cette vocation de Joseph, Dieu nous l'a transféré d'une manière spirituelle. Nous sommes donc dans cette vocation céleste, cette vocation spirituelle qui consiste à apporter la vie et à apporter la lumière au monde. Ce doit être maintenant notre vocation céleste. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à son nouvel Israël, « Allez !» et faites de toutes les nations des disciples. Saint Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Commencez à Jérusalem, en Samarie, dans toute la Judée, et jusqu'aux extrémités du monde, et partout où vous êtes, votre vocation céleste vous appelle à apporter la lumière et la vie d'en haut. Au commencement, l'Église s'était presque établie dans la Jérusalem terrestre. Elle fut lente à s'éloigner de cette ville et le Seigneur a dû prendre un lourd marteau et il a dû le laisser tomber sur l'Église de cette ville. Et tous furent alors dispersés. Et le Seigneur a dit, « J'en ai fini avec cette cité terrestre. La nouvelle Jérusalem est en haut, et la vocation nouvelle, céleste, est pour toutes les nations. » C'est la vocation céleste de l'Israël spirituel désormais, mais elle doit arriver plus tard à la plénitude. Et cette plénitude nous est montrée à la fin de la Sainte Bible. La cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, selon Apocalypse 21, verset 2. Non, ce n'est pas là un centre terrestre qui est matériel et politique. Ce sont les compagnons, les disciples de Christ qui sont représentés par le symbolisme de la cité et le dernier mot qui soit dit de cette cité, c'est celui-ci. Les nations marcheront à sa lumière et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie. Et les feuilles de cet arbre sont pour la santé des nations. Apocalypse 21, verset 24 et chapitre 22, verset 2. Chers amis, avons-nous remarqué que nous avons changé un mot? Car notre traduction, elle dit « pour la guérison des nations ». Mais, excusez-moi, ce mot n'est pas très correct. Les nations, elles n'auront plus du tout besoin de guérison. Elles n'auront plus besoin de guérison dans l'éternité. Que Dieu soit donc béni. Mais elles auront besoin que leur santé spirituelle soit développée. La plupart d'entre nous, nous n'avons plus besoin d'être sauvés. Souvenons-nous en passant que le mot « salut » dans le texte original signifie « santé ». Être maintenu dans un état de bonne santé, telle est donc la signification du mot « salut ». Être spirituellement en bonne santé, physique et spirituelle, les nations alors seront les personnes qui auront reçu l'évangile et qui auront répondu « oui ». La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Mais, tout au centre des nations, il y aura l'Église. Et par l'Église, il y aura la vie et la lumière qui jailliront pour maintenir la santé des nations. Ainsi, lorsque tout a été dit et accompli, nous arrivons enfin, après cette longue histoire, à la fin du dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Et la dernière image que nous rencontrons est celle d'un Israël céleste maintenant. Un Israël céleste qui apporte la lumière et qui apporte la vie aux nations. Chers amis, nous sommes, vous et moi, les compagnons, les disciples de Christ. Si, le mot « si », sa maison, c'est nous. Si, en un sens, toute la lettre est concentrée sur ce petit mot « si ». Ce n'est plus maintenant une question du salut pour entrer au ciel. Il est maintenant question de cet instrument d'une vocation céleste à l'égard de tous les autres. C'est ici la hauteur de la vocation céleste. Je vous laisse répondre à cette question en étudiant de nouveau cette lettre. Sur www.bibleexplique.ch, vous pouvez trouver une étude sur Hébreu qui complète notre série actuelle. Pourquoi insiste-t-elle sans cesse sur cette nécessité d'avancer? Je ne crois pas que si vous n'avancez pas, vous perdrez votre vie éternelle ou sacrifierez ainsi votre salut. Mais je crois par contre que si vous n'avancez pas, vous perdrez peut-être votre héritage. Et c'est là l'enseignement de cette lettre telle que je le comprends. Oui, le seul objet de tout le Nouveau Testament après les évangiles, c'est celui-ci. Nous devons inviter les chrétiens à avancer et à poursuivre jusqu'à la pleine croissance, la maturité. Dieu avait mis dans la constitution même d'Abraham quelque chose qui produisit deux effets. Cela a fait de lui un homme non satisfait. Il était possédé d'un saint mécontentement. il avait vu le pays et Dieu lui avait donné les troupeaux et les moutons en abondance. Mais il parcourait sans cesse le pays en disant ceci. Ceci n'est pas tout. Il y a quelque chose de plus que ceci. Abraham avait donc vu tout au travers de l'âge et des âges. Il avait eu une vision et rien dans ce monde n'aurait pu satisfaire cette vision. Avançons, dit cette lettre aux Hébreux, et ne nous arrêtons pas et ne soyons jamais satisfaits par quelque chose de moindre que toute la plénitude de Dieu. Tel est son message. À la fin, notre marche est représentée comme étant une course. Nous participons en quelque sorte à une course et le but et le prix sont devant nous. Ne nous arrêtons donc pas dans notre course et ne nous détournons pas. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte et regardons à Jésus. Hébreux chapitre 12 verset 1 et 2. Hébreux chapitre 12 verset 1 et 2. Abraham, votre père, il a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour, le Messie. Oui, regardons à Jésus. Ne nous contentons jamais de quelque chose de moindre que la plénitude de Dieu. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs saints, vous les compagnons, les disciples d'une vocation céleste, lorsque le Saint-Esprit a réellement sa place dans un cœur, eh bien ce cœur sera un cœur qui avance. Il ne s'arrêtera jamais à quelque chose de moindre que la plénitude de Dieu. Pour terminer, disons qu'il y a deux sortes de mécontentement. Il y a de pauvres personnes misérables qui ne sont jamais satisfaites de rien. Elles sont toujours mécontentes, et cela d'une mauvaise manière. Nous n'en appelons pas à de telles personnes, mais ce mécontentement spirituel, celui qui dit « non, que j'ai déjà remporté le prix » ou « que je sois déjà parvenu à la perfection », mais je fais une chose, oublions ce qui est derrière moi. Je répète, oubliez ce qui est derrière vous et je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. C'est la nature d'une vie vraiment gouvernée par le Saint-Esprit. Elle tendra toujours en avant pour posséder davantage le Seigneur. Telle est donc la véritable postérité céleste d'Abraham. Nous sommes donc les compagnons, les disciples d'une vocation céleste. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père et le Fils Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur d'avoir permis d'arriver au bout. Je ne sais pas si j'ai le temps de... Chers amis, prier c'est présenter au Père les meurtrissures de son Fils. Quelle prière faisons appel à ces meurtrissures de l'agneau, frappe pour notre rédemption resterait inexaucée, je vous le demande. Je loue et je bénis ta toute puissance insaisissable, ô Seigneur Jésus-Christ. Oui, toi, qui t'es laissé devenir impuissant dans la passion par amour pour nous, les humains, je loue et je bénis ta sagesse insondable qui t'a conduit à passer pour non désirable. Je loue et je bénis ton humanité incompréhensible qui, en toute liberté, t'a amené à devenir la victime de la haine par amour pour tes élus. Je loue et je bénis ta douce patience qui t'a fait subir la plus horrible des morts par amour pour nous. J'aime et j'adore ta belle douceur qui t'a fait goûter l'amertume de la mort. Amen. Chers amis, il est un fait que je vous aime, mais je ne pourrai jamais vous aimer autant que Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Gloire au Seigneur. Et je vous demande si vous pouvez réécouter cette étude, car elle est peut-être pas tout à fait simple. Et j'ai dû tout de même demander l'aide de l'Esprit Saint, car sans l'Esprit Saint, je n'y serais pas arrivé. D'abord, la voix n'aurait pas pu aller jusqu'au bout, vu mes 89 ans. Alors, cela fait partie, comme je vous l'ai dit, des choses qui sont impossibles, mais que Dieu rend possible, et qu'il rend ces choses d'une façon surnaturelle. Nous avons donc un Dieu surnaturel. S'il y a des malades parmi vous, vous pouvez vous approcher du Seigneur qui est mort à la croix pour nos péchés, comme aussi pour nos douleurs, nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que vous pouvez être touché et guéri. Je l'ai été de très nombreuses fois, de très nombreuses fois. Et je dois même vous avouer quelque chose de pas très glorifié ou glorifique. Je l'ai souvent même pas mérité. Nous ne méritons pas tout ce que le Seigneur fait pour nous. Pour cela, merci Seigneur. Et merci encore. Et nous désirons, je désire avec vous, être son disciple jusqu'au bout. À bientôt, mes chers amis. Au revoir.